Guillaume Lavoie. Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline. Guillaume Lavoie.
Bonjour, heureux de vous retrouver. Bienvenue à Cube Radio. Aujourd'hui, est-ce que le caucus précessionnel de la CAQ va nous donner des indications sur ce qu'on va faire en éducation? C'est ce qu'on va discuter avec Rémi Nadeau. Et dans notre aventure pour enrichir la conversation nationale, est-ce qu'il y a un avenir, et si oui, quel est-il, pour les francophones hors Québec? Tout ça, et un peu d'autres choses, à un autre épisode de Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Embarquez avec Guillaume Lavoie dans les coulisses de la démocratie.
C'est le moment de rejoindre Rémi Nadeau, notre chef du bureau parlementaire à Québec pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Bonjour Rémi.
Bonjour Guillaume, évidemment, aujourd'hui en direct de Laval.
De Laval. Pas l'université, la ville.
Non, c'est ça, la ville, avec les caquistes réunis en caucus.
Bien là, c'était une journée, ma foi, faste, et tout ça a commencé par une étude où on mettait presque en accusation les régimes d'avantages sociaux, beaucoup associés au secteur public, qui permettent des services de télémédecine. Et là, mais il y avait un enjeu de est-ce que là, on n'est pas en train de développer un marché parallèle? Je sens venir les critiques de la gauche très, très dures là-dessus. Et le plus gros employeur au public, c'est le système de santé. Alors, j'imagine que la question est arrivée assez rapidement à Christian Dubé, le ministre en question. Comment ça s'est passé, tout ça?
Christian Dubé, vraiment de mauvais poil. Je reviendrai, là, je dirais pas le Christian Dubé que je connais habituellement. Je sais pas comment expliquer ça. Mais notre collègue Patrick Belle-Rose, qui a publié un texte dans le journal ce jeudi, qui révèle qu'il y a des organismes publics donc qui ont conclu des contrats avec des services de télémédecine privés. Et donc, les employés en profitent. Mais on parle, par exemple, des employés d'Hydro-Québec, d'Investissement Québec, d'organismes plus petits comme le PAP, le Protecteur du citoyen, bon, etc. On en a répertorié là 7-8 assez facilement. Et là, la question que ça pose, ben, c'est que, évidemment, ce sont des services, dans le fond, qui sont payés par toi, par moi, par les contribuables.
Ça fait partie des conditions de travail négociées. Là. C'est un régime d'avantages sociaux dans lequel il y avait historiquement le typique, là, les lunettes, les dents, des affaires comme ça. Puis là, maintenant, il y a des services de santé mentale, de télémédecine.
Ben oui, exactement, c'est ça, consultation. Alors là, ben, ça, parce que ça fait en sorte que il y a des Québécois qui n'ont pas accès à des services comme ceux-là. Et là, des employés du secteur public sont payés par l'État, puis eux, ils ont accès à ça. Donc, là, on a d'abord questionné en premier lieu Pierre Fitzgibbon en marge du caucus, parce que Pierre Fitzgibbon, Hydro-Québec et Investissement Québec, ça relève de lui. Et lui, il disait, ben écoutez, il y avait une question, ça s'est développé durant la pandémie particulièrement, il y avait une question aussi de rétention de personnel. On veut que nos employés aient accès à ce genre de service-là. Et lui, il disait, bon, moi, sur le plan personnel, je pense que la télémédecine est là pour rester. Mais là, il mettait ça après ça un peu comme, avec raison, là, sur les épaules de Christian Dubé en disant, moi, je pense que c'est une bonne chose. Mais là, il disait qu'effectivement, dans la perspective de l'équité, mais là, ça revenait un peu à M. Dubé de faire en sorte qu'il y ait aussi l'équivalent des services là de ce type-là disponibles assez facilement pour le grand public aussi, c'est pour tout le monde. Et donc, M. Dubé, on n'avait pas pu vraiment comme l'accrocher là à l'entrée du caucus. À un moment donné, ils nous l'ont sorti là, en milieu d'avant-midi. Et j'ai quand même trouvé sa réponse un peu particulière parce qu'il a dit, écoutez, là, il y avait une grosse admission. T'sais, il a dit, pour les Québécois, en général, l'accès aux services n'est pas là. On n'a pas accès à des bons services. Donc, il a dit, ceux qui en ont, bon, on ne va pas leur en enlever.
Oui, parce que c'est toujours l'espèce de tension, là. Souvent, on entend la critique, ben, c'est pas juste, eux, ils ont quelque chose d'infiniment désirable. Est-ce que la solution, c'est de l'enlever à ceux qui l'ont ou peut-être d'essayer de le développer pour ceux qui l'ont pas?
Ben, c'est ça. Mais donc, c'est juste que c'était présenté assez froidement par M. Dubé. Je dirais sans grande compassion pour ceux qui n'ont pas de ces services-là. Mais en tout cas, je pense que l'échange a été un petit peu comme, je dirais tendu avec les journalistes. Mais parce que c'est ça. Donc là, il faut en fait maintenant que dans le cadre du plan de refonte du système de santé de M. Dubé, il y ait un plus large accès. Puis il a dit quand même que c'est un objectif, effectivement, de faire en sorte qu'on puisse avoir davantage d'accès. Mais ben, pendant ce temps-là, quand même, ça pose la question comment ça se fait qu'il y a des employés du secteur public qui, eux, ils l'ont déjà, les autres ne l'ont pas. Puis l'autre chose, ben. Un autre point qui a été relevé par le Parti québécois, notamment parce qu'il y a des partis d'opposition aussi qui ont émis des critiques, le Parti québécois aussi a dit avec raison, l'autre effet pervers, c'est que si les organismes publics passent par ce genre de service-là privé, et s'il y en a de plus en plus, parce que par exemple, là, je te dirais que nous, on soupçonne aussi le ministère de la Famille, là, à qui on a posé des questions, ils ont accordé un contrat, on attend leur réponse, mais il semble qu'eux aussi sont en train d'offrir ce genre de type de service-là. Mais c'est que si ça se déroule de plus en plus vers le privé, ben là, on se tire aussi un peu dans le pied, parce qu'on va dire, dans le fond, ça va mobiliser encore plus de ressources disponibles au privé et non au public. Fait que, tu sais, il y a aussi cet effet pervers-là. Moi, je pense qu'on a là un débat intéressant. Je suis d'accord avec toi dans le sens que je pense pas qu'il faut enlever complètement là à ceux qui l'ont, mais il faut rapidement faire en sorte que ce soit plus équitable et que ces services-là soient accessibles davantage pour tous.
C'est ça, mais là, si c'est égal pour tous, là, il faudra se poser des questions parce que les régimes d'avantages sociaux, là, j'enlève privé-public, là, tu me corrigeras, mais évidemment, on pourrait résumer ça de manière assez simple. Là. Gros employeurs, souvent, quand c'est syndiqué, je pense par exemple aux vieux travailleurs de l'Alcan, ben, le régime d'avantages sociaux tend à être plus généreux que quand tu travailles pour une petite PME ou si tu es chômeur. Ça a toujours été ça. Alors, qu'est-ce qui fait que là, ça vient... je dirais casser un peu plus, là, ici.
Ben, tu as raison, sauf qu'à ce moment-là, moi, je pense que peut-être que l'offre, par exemple, d'un gros employeur peut être encore plus bonifiée, je te dirais, il peut avoir un accès peut-être encore plus élargi, mais il faudrait que l'ensemble des Québécois, comme quelque chose aussi, tu sais, qui leur permet au moins un minimum d'accès. On ne peut pas faire en sorte que des gens n'aient pas du tout comme accès à ce genre de consultation ou très peu, là, et que des gens à l'inverse, qui sont payés par ailleurs avec nos impôts, là, aient des services très rapides, là, et faire en sorte qu'eux puissent éviter l'attente et avoir des consultations très rapidement. Donc, c'est là où, à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait. Je comprends qu'il n'y aura peut-être pas complète équité, là, comme tu dis, mais il faudrait au moins qu'il y ait davantage de possibilités là, dans le secteur public, ouais, pour monsieur, madame, tout le monde.
J'ai l'impression qu'il va y avoir un débat de société qui va s'inscrire là-dedans parce que c'est vraiment, comme dirait l'autre, la pointe de l'asperge. Donc, tu es au caucus de la CAQ. Alors, les ministres passent les uns après les autres. Il y a Bernard Drinville qu'on n'avait pas beaucoup vu. Bon, hier, il a dit je ferme la porte à certaines choses. Mais là, aujourd'hui, il a présenté un peu plus de choses sur ce qu'il entendait faire. Tout le monde, il y avait une espèce de prise de conscience à quel point le défi était grand. Qu'est-ce qu'il a présenté, en gros?
Oui, là, vraiment, c'est ça. C'est que il avait été plutôt discret depuis l'élection et les médias, on était nombreux à avoir demandé là, des demandes d'entrevue avec lui pour savoir où il s'en va, quelles sont ses priorités, est-ce qu'il y a des pistes d'action pour améliorer la situation en éducation. Et là, c'était l'occasion de connaître, dans le fond, son plan. C'est qu'il a présenté des orientations en conférence de presse, en marge du caucus. Et là, on peut dire que vraiment, la rondelle est mise aux yeux sur la glace. Moi, je retiens deux points assez importants parce qu'on sait qu'il manque d'enseignants. Donc, il y a deux trucs. D'abord, il voudrait faire en sorte que les enseignants aient davantage d'aide, par exemple, pour les élèves qui présentent des problèmes particuliers qui sont dans les classes régulières. Ce qu'il veut faire en sorte, c'est que les éducateurs de services de garde en milieu scolaire, qui sont là, par exemple, pour le midi ou pour le tôt le matin avant les classes, puissent donner un coup de pouce aux enseignants dans les classes. Et moi, je vois ça d'un bon œil parce qu'il y en a qui pensent que, par exemple, c'est faire en sorte que des gens qui sont pas des enseignants se retrouvent à enseigner, là, mais pour que l'enseignant puisse se concentrer sur la majorité, par exemple, de ses élèves et les faire progresser, ben, ça peut être possible qu'un aide puisse aider un jeune qui a plus de difficultés à s'organiser là, dans le cadre de la classe. Et ça permet au professeur de se concentrer sur les autres, tu comprends?
Mais là, est-ce qu'on lui a posé la question qui tue? Tout ça, c'est bien gentil, mais quelle marge de manœuvre financière, parce que tout ça n'est pas gratuit, si on veut faire des choses de plus, ça va coûter infiniment plus cher?
Ben c'est ça, parce que ça implique évidemment que des gens vont faire plus d'heures de travail, forcément. Là. Fait que ça, c'est sûr que ça reste à voir. Ça va impliquer aussi comme une négociation avec les syndicats puis et tout là, donc c'est un peu comme on dit souvent là, il faut rester branché et suivre la suite. L'autre point, c'est qu'il voudrait faire en sorte que les gens qui ont un bac dans une matière, par exemple comme en géographie ou en histoire, pourraient faire une ce qu'on appelle la maîtrise qualifiante en 2 ans, mais pour qu'elle soit faite en 1 an. Et donc, qu'il y ait plus de personnes qui puissent rapidement, si ça leur chante, devenir enseignant, obtenir un brevet. Là,
mais ça, Rémi, c'est intéressant. Ça fait longtemps au Québec, c'est particulièrement sclérosé dans une espèce d'approche que personne n'a mis en œuvre ailleurs, où on se retrouve avec plus de spécialistes en pédagogie et moins de connaissants. Là, l'idée de si je suis expert dans une matière, à quelle vitesse vous pouvez me mettre dans une salle de classe, si je m'en sens la vocation, ça, c'est intéressant. Plusieurs ont essayé avant lui ou en ont parlé. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, il pourrait livrer?
Bien, encore là, donc ce sera une question un peu de négociation. Mais moi, en tout cas, je suis très ouvert à ça parce que, comme tu l'as bien résumé, il y a des gens qui peuvent être extrêmement compétents dans leur domaine. Et est-ce que c'est suffisant 1 an pour apprendre, je dirais, à communiquer leur savoir à des jeunes ou à une classe? Je pense que ça peut être possible. Puis à ce moment-là, ben ils deviennent des joueurs importants pour donner un coup de pouce dans le réseau et faire en sorte qu'il y ait plus de bras. Et je te dirais donc à date. Parce que les journalistes aussi sont partis à la recherche de réactions. Je constate que dans le milieu scolaire, on réagit avec assez d'optimisme ou de positivisme aux pistes là, qui sont évoquées par Bernard Drinville. Il y a un peu de scepticisme parce qu'il y en a qui disent « ben OK, on est quand même pas mal d'accord avec les orientations, mais il faut faire attention avec… il faut pas prendre des moyens trop simples peut-être pour y arriver puis avoir des effets pervers ou il faut faire les choses correctement. » Donc, mais en tout cas, pas de levée de bouclier, là, tu comprends, aux premiers abords, alors que M. Drinville a battu ses cartes. Fait,
ouais.
Je pense qu'il y a quand même peut-être lieu d'être modérément...
Donc, le monde syndical, les contreparties du ministre ont décidé de lui donner la chance au coureur. Et on verra par la suite si ils vont lui faire un bulletin chiffré sur sa performance à la fin. Rémi Nadeau, je rappelle, t'es chef du bureau parlementaire à Québec pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Merci beaucoup. On s'en parle demain.
À demain, Guillaume.